46. J'attends donc les questions que vous allez me poser. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Et si c'est nécessaire, je vous présenterai quelques documents, disons, de cette époque-là, pour, d'une façon plus concrète, préciser ce qu'il en était. J'espère quand même que vous avez des questions à poser. Voudriez savoir comment je suis entré dans la résistance, vraisemblablement. C'est souvent la première question qu'on me pose. En 1943, lorsque je suis arrivé au lycée Lalande, je venais d'entrer dans la résistance. En réalité, je n'aurais jamais dû être élève au lycée Lalande, parce que je venais de passer le concours d'entrée à l'école normale. Donc, enfin, aujourd'hui, ça n'est plus l'école normale, c'est l'IUFM, c'est-à-dire l'Institut universitaire de formation des maîtres. Mais à l'époque, c'était l'école normale, pour garçons et pour filles. Il y avait deux écoles normales à Bourg. Et comme Pétain avait supprimé les écoles normales, les normaliens étaient intégrés au lycée Lalande. C'est ainsi que je suis arrivé au lycée Lalande en octobre 1943. Comment je suis entré dans la résistance? Vous pensez sans doute que c'est particulier, c'est vrai, mais en ce qui me concerne, c'était vraiment banal. C'est-à-dire que tout simplement, on m'a un ami qui était avec moi avant le concours d'entrée à l'école normale à l'EPS de Châtillon-Chalaronne, c'est-à-dire l'école primaire supérieure de Châtillon-Chalaronne, me rencontre sur une fête, sur une vogue, c'est-à-dire à Morvel-en-Bresse plus exactement, et me pose la question, dans la conversation, est-ce que tu voudrais rentrer dans la résistance? Je savais que la résistance existait, mais je n'avais absolument eu aucun contact. Et c'est comme ça que, au tout début du mois de septembre 1943, je suis rentré, après ce contact-là, dans la résistance. Vous voyez donc que c'est extrêmement banal. Mais il ne faut pas croire que mon exemple est un exemple universel. Autant d'anciens élèves résistants venant dans votre classe et vous parlant de leur engagement, vous diront que pour eux, c'était différent, soit parce qu'ils avaient déjà dans la famille des résistants, soit parce qu'ils avaient des connaissances particulières. En ce qui me concerne, je n'en avais aucune, et c'est comme ça que je suis rentré dans la résistance, en septembre 1943. Donc, lorsque je suis entré au lycée Lalande, j'étais déjà dans la résistance. Parlez plus fort parce que le fait que mon oreille fonctionne moins bien, c'est le privilège de l'âge.
C'est quoi en tant que résistant?
Alors, en ce qui me concerne, j'étais interne, puisque la plupart des élèves à l'époque, enfin une très grande partie, étaient internes. Donc je ne pouvais travailler que dans l'internat. Et lorsque je sortais, c'était lorsque je rentrais le dimanche chez moi, et c'est tout ce que je pouvais faire. Donc je n'ai pas, si vous voulez, participé aux mêmes choses ou aux mêmes actions que celui qui était externe ou à l'extérieur du lycée. J'avais, disons, moi, ce handicap d'être à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, l'une des choses que nous faisions, c'était de distribuer des journaux, mais on ne les distribuait pas comme ça à la volée ou à la porte du lycée pour que chacun apprenne. On ne le distribuait qu'à ceux, enfin aux camarades que nous connaissions bien et dont nous étions sûrs. Autre chose que j'ai faite à l'intérieur du lycée, je ne sais pas si je l'ai apporté, mais j'ai collecté de l'argent aussi. Il y avait des petites collectes, des reçus, et on donnait de l'argent à l'organisation qui était celle à laquelle je participais, c'est-à-dire les FUGE, les forces unies de la jeunesse. Voilà ce qui concerne l'intérieur. C'est principalement ces choses-là que j'ai faites. Lorsque nous sortions, eh bien, il y avait naturellement d'autres choses qui nous étaient demandées. Si vous voulez le savoir, je vais vous l'indiquer. En ce qui me concerne, le normalien qui était, disons, mon correspondant, c'est pas le mot exact, mais celui qui me chapeautait au lycée, m'avait demandé de constituer une trentaine fuges dans le nord de la Bresse. Je suis originaire du nord de la Bresse, du canton de Saint-Trivier-de-Courte, donc j'ai constitué au fil des semaines et des mois une trentaine fuges dans le canton de Saint-Trivier-de-Courte. Cela se passait en fin 1943, début 1944. Qu'est-ce qu'une trentaine ? C'était un ensemble de sixaines, parce que nous étions organisés, il faut le savoir, en sixaines. Et cinq sixaines formaient une trentaine. Pourquoi des sixaines ? C'est-à-dire un groupe très petit en définitive. Parce que ce qu'il fallait éviter, c'est que les connaissances, si vous voulez, répercutent à l'extérieur toute une série de choses qui n'étaient pas à faire connaître. Il fallait, en quelque sorte, être le plus que possible discret. La discrétion, c'était quelque chose d'absolument élémentaire. Pourquoi ? Parce que il n'y avait pas, contrairement à ce que vous pensez, beaucoup de gens qui étaient résistants. Il y avait aussi des collaborateurs, c'est-à-dire des gens qui espionnaient, n'est peut-être pas le terme exact, mais qui renseignaient la milice des agissements de telle ou telle personne. Donc ça, c'était une chose qu'il fallait absolument éviter. Éviter que l'on soit dénoncé à la milice. Parce que la dénonciation, soit par lettre anonyme, soit par voie orale, cela signifiait que l'on allait être pris, emprisonné, ce qui est arrivé à certains, et ensuite, la suite, nous ne la connaissions pas en avance. Donc, ce qu'il fallait absolument, c'est éviter toute fuite vers l'extérieur, d'où la constitution de groupes limités. Moins on est nombreux, mieux ça vaut. Et à la tête de chaque sixaine, il y avait un responsable que je connaissais. Voilà, si vous voulez, pour vous donner un exemple. Dans les faits, les choses se sont passées, si vous voulez, comme ceci, mais j'ai eu la surprise de constater qu'il y avait quand même des fuites, qu'il y avait des gens qui parlaient, parce que j'étais interne au lycée Lalande, et un jour, après le repas de midi, on m'appelle au ce qu'on appelait le parloir, c'est-à-dire à la conciergerie, et j'ai la surprise de voir un gars que je connaissais bien, une personne que je connaissais bien, de Saint-Trivier-de-Courte, qui venait me demander, me questionner, pour savoir pourquoi, en quelque sorte, j'empiétais sur ces plates-bandes, parce qu'il y avait d'autres organisations, il y avait l'AS, notamment, qui existait, chose que j'ignorais totalement, bien entendu, puisque, comme je jouais au foot à ce moment-là, c'était le début de l'équipe de foot, c'est surtout dans ce milieu-là, dans les gens que je connaissais, que j'ai recruté. Et je vous donne cet exemple parce qu'il m'a surpris profondément. Je m'attendais à ce que tout soit tranquille, bien cadré, bien net. Et cet exemple-là montre que les fuites existaient bien quand même. Peut-être pas des fuites, des divulgations malhonnêtes, mais simplement parler. Quand on parle, il y a toujours des oreilles qui vous écoutent et qui sont attentives à ce que l'on raconte. Voilà pour, disons, pour les choses essentielles. Donc, si vous voulez que je me résume, il y avait, pendant cette période de la résistance, la distribution de journaux clandestins. Pour ce qui me concerne, récolter de l'argent, et la chose la plus importante, organiser une trentaine fuges dans le canton de Saint-Trié-de-Court. Voilà, mais ça, il ne faut pas croire que ça se faisait comme ça en cinq minutes. Il fallait des semaines de contacts, trouver les copains qui étaient, dont on était sûr pour pouvoir le faire. Donc, ça, rien ne se passait en quelques instants ou en une semaine ou deux. Cela demandait beaucoup de temps. Je pense avoir résumé l'essentiel de ce que j'ai fait pendant la, je dis bien pendant la résistance, hein, pendant la période où j'étais au lycée. Puisque le 6 juin 1944, le débarquement a eu lieu, et à ce moment-là, c'était une autre période qui commençait.
Vous avez employé deux termes qui me semblent importants pour la période. Vous avez employé le terme de milice et le terme de AS. Oui. Ils ne connaissent pas.
Ah oui. La milice, c'était une organisation, pour employer un terme aujourd'hui, fasciste, qui était destinée à, disons dans l'État français de l'époque, à surveiller, à espionner, c'est le cas de le dire. J'emploie ces termes parce que peut-être qu'ils correspondent mieux à votre langage d'aujourd'hui. Et en définitive, de traquer tous ceux qui étaient hostiles à Pétain, enfin à l'État français, et aussi, il ne faut pas l'oublier, aux Allemands, parce qu'en 1943, c'est une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, mais nous n'étions plus en zone non occupée, nous étions occupés par les Allemands. J'aurais peut-être dû commencer par ça.
Comment vous le constituez ?
Non, je résume simplement. En 1940, lorsque la France a été vaincue, le territoire a été séparé en deux zones. Une zone nord, pour simplifier, qui s'étendait aussi sur les parties océaniques et vers la Suisse, était ce qu'on appelait la zone occupée. Et nous étions dans la partie sud qui était la zone non occupée. C'est-à-dire que les Allemands, après 1940, n'étaient pas, disons, dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Par contre, le 11 novembre 1942, les Allemands ont franchi la ligne de démarcation et sont venus jusque 11 novembre 1943, oui, je ne sais pas si je l'avais précisé.
Non, j'ai dit deux, pardon, c'est moi qui ai écrit. Non, c'est vous.
42.
Deux.
Sont venus dans la zone sud, c'est-à-dire qu'en plus de la milice, nous avions l'armée allemande, avec la Gestapo, tout ce que ça comporte. La Gestapo, c'était la police spéciale de l'armée allemande. Voilà donc comment ça se présentait. Pour vous situer un peu les choses, je n'avais que 13 ans en 1939 lorsque la guerre s'est déclarée. C'est-à-dire que lorsque je suis entré dans la résistance, je venais juste d'avoir 17 ans. C'est un âge que vous pouvez, disons, situer puisque vous devez être proche de cette zone-là, vraisemblablement. Donc, à 17 ans, c'était déjà un passage d'un état à un autre.
Ce que vous appelez la zone libre, c'est le régime de Vichy.
Comment ?
Ce que vous appelez la zone libre, c'est le régime de Vichy ?
Voilà, la zone libre, c'était avec pour capitale, je ne vais pas dire capitale, la capitale française, c'était toujours Paris. Mais comme l'État français s'était installé dans la zone sud, c'était Vichy qui était le siège de l'État français, qui avait comme chef, dès le départ, le maréchal Pétain, pour vous situer. Et ensuite, Vichy a continué, naturellement, l'État français a continué à avoir, disons, ses ministères, son siège encore à Vichy jusqu'à la fin de la guerre. Quoi.
Quelles étaient vos motivations de faire partie de la résistance ?
Ah, ça c'est une excellente question. Mes motivations sont ou étaient diverses. D'abord, je faisais partie, enfin ma famille était une famille qui, enfin mon père notamment, qui avait fait toute la guerre de 14, de 1914-1918, était anti-allemand, pour ne pas employer une autre expression plus vulgaire. C'est-à-dire que, à cette époque-là, lorsqu'il s'est rencontré avec d'anciens, on ne parlait que de la guerre des 14, des tranchées, des batailles, enfin j'en passe, et beaucoup d'autres. Donc, pendant toute ma jeunesse, au cours d'éveillé, je n'ai entendu que parler, c'était le refrain traditionnel de la guerre de 1914-1918, des Allemands, etc., etc., et de la haine qu'il y avait chez ces anciens combattants de 1914-1918. Donc, ça, c'est l'une de mes motivations. La deuxième, c'est que mon père était tellement, disons, il avait tellement subi de choses pendant la guerre de 1914-1918 qu'il était devenu, il était rentré profondément révolté. Et dans la période qui a été la période notamment de 1930 à 1940, il bataillait verbalement, je m'entends, hein, dans la discussion, contre les croix de feu de l'époque, contre toute cette, tous ces gens qui formaient ce qu'on appellerait aujourd'hui la droite française, pour vous situer un peu la chose, la droite la plus à droite. Voilà. Donc c'était, mais je m'excuse de cette simplification, c'est pour essayer de vous faire comprendre comment les choses se passaient. Moi j'ai encore le souvenir, je vais vous raconter les souvenirs, mon père, mes parents étaient agriculteurs, et la vie d'autrefois n'était pas celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on moissonnait à la main, on faisait les battages, et les battages c'était lorsqu'on allait chez les voisins battre à la machine. Et c'était l'occasion de repas chaque fois que c'était terminé. Et on buvait naturellement abondamment, ça n'empêchait pas de travailler, mais c'était l'occasion de discussion et de discussions importantes. Et quand il rentrait, il parlait toujours de ces discussions qu'il avait eues avec les croix de feu qu'il avait essayé de, disons, de mater de sa façon. Donc, vous voyez, ça c'est la deuxième motivation. Ensuite, je dirais que, vous savez, quand on est jeune, je parle pour moi, mais je pense que ça doit être vrai pour tous, on n'est pas, disons, conscient toujours de la réalité des choses. Et on est enthousiaste, on a envie de faire quelque chose, on a envie de s'engager, et je crois que c'était, moi j'étais prêt à m'engager dans la résistance, il suffisait simplement qu'on me le demande et je partais. Donc je crois avoir, disons, expliqué un peu quelles étaient mes motivations. Je ne raisonnais pas comme quelqu'un qui avait 50 ou 60 ans, c'est évident. Je raisonnais comme un jeune. Oui ?
Est-ce qu'après la fin de la guerre, la résistance a encore joué un rôle ou ça ne plus ?
À la fin de la guerre ? Ben écoutez, le rôle de la résistance, si vous voulez, en tant que résistance, elle a eu un rôle important parce qu'elle a conduit au maquis, à la formation des maquis. Ça, c'est une chose extrêmement importante parce que c'était une autre phase. La première phase pour celui que j'étais, c'était la résistance, c'est-à-dire j'étais sur les bancs de l'école, enfin du lycée comme vous, je faisais ce que je pouvais. Mais la deuxième chose, c'est qu'après le 6 juin, enfin au débarquement, à ce moment-là, les gens sont sortis de l'ombre, comme on dit, pour s'organiser en maquis. Et là, je raconte une autre anecdote. Je croyais partir avec la trentaine fuge, disons, dans le budget, comme c'était prévu. Et finalement, je ne suis pas du tout parti avec la trentaine fuge. Je vous explique pourquoi. Ça va vous paraître un peu invraisemblable, mais la vie de l'époque n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis sûr que vous avez tous votre portable dans votre poche et que s'il y a la moindre petite chose, vous téléphonez à vos parents ou à quelqu'un qui vient à votre aide. À l'époque, dans mon village, il y avait un téléphone. C'était un poste fixe avec le télégraphe, c'est-à-dire qu'on envoyait des messages télégraphiques. Donc, communication, elle se résumait à zéro. Si bien que, au lieu d'être prévenu de lieu de rassemblement ou de quoi que ce soit, je n'ai absolument pas été prévenu. Je me suis trouvé comme ça. Ça vous étonne peut-être un peu, parce qu'aujourd'hui, vous êtes habitué à communiquer, à entendre constamment la radio, la télévision, les portables, enfin j'en passe et beaucoup d'autres. À l'époque, pratiquement rien de tout cela n'existait. Il n'y avait pas de télévision, bien sûr. Il n'y avait pas de téléphone, ou très très peu. Il n'y avait presque pas de poste de radio. La TSF à l'époque, c'était pas la radio. Mais c'était pareil. Par exemple, chez moi, la ferme, il n'y avait pas de poste de radio. Aucune ferme ne possède poste radio. Donc c'était très difficile de communiquer. C'est la raison pour laquelle je me suis trouvé coincé au lieu de partir avec les fuges comme cela aurait dû être. Ce qui ne m'a pas empêché de partir au maquis. Mais j'ai été obligé de bifurquer et je me suis retrouvé au maquis avec les gens du coin, les gens de, disons, de la Haute-Bresse. Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait au maquis ?
Ah, au maquis, eh bien, le maquis était organisé, enfin, exactement, je me suis trouvé dans plusieurs endroits différents. La première fois, je me suis trouvé à Saint-Dizier, je vous donne les noms de villages parce que ça peut peut-être vous aider. Au début, nous étions cantonnés à Saint-Dizier-le-Bouchou. Il y a eu, disons, lorsque, à la fin du mois de juin, une attaque générale de l'armée allemande dans tous les secteurs, si bien que nous avons été obligés de quitter Saint-Dizier-le-Bouchou. Et à ce moment-là, on se dispersait avec du matériel pour éviter d'être, disons, d'être attaqué, et repartir ensuite. Pourquoi ça? Parce que c'est peut-être une question que vous pouvez poser. Vous pensez que nous étions capables de livrer des batailles rangées comme dans une guerre traditionnelle? C'était impossible. Les essais qui ont été faits, notamment dans les Alpes, n'ont conduit à rien. Par contre, il fallait s'organiser en petits groupes pour attaquer les Allemands et s'en aller ensuite. C'était, si vous voulez, ce que le responsable militaire des maquis dans l'Ain, le colonel Roman Petit, avait mis en place. Ce que j'ai fait au... Donc je suis parti à Saint-Dizier-le-Bouchou, ensuite on s'est dispersé avec les armes, bien entendu. On avait beaucoup d'armes, et on s'est regroupé ensuite dans un camp qui se trouvait entre Saint-Trivier-de-Courte et Pont-de-Vaux, c'est-à-dire à Servigna exactement. C'était une vieille ferme inoccupée dans laquelle je me suis retrouvé avec plusieurs dizaines de résistants qui étaient commandés par le lieutenant Albert. Ensuite, comme le nombre a augmenté sans cesse, nous nous sommes à nouveau recloisonnés. Nous sommes répartis dans des petits camps, beaucoup plus mobiles et beaucoup plus faciles à se dissimuler. Parce que vous savez, plus on est nombreux, plus c'est facile à voir. Et à l'époque, la campagne n'était pas vide. Il y avait beaucoup de petites fermes partout. Et je me suis retrouvé à nouveau à Saint-Dizier-le-Bouchou. Dans un bois avec deux groupes, c'est-à-dire que nous étions une douzaine d'anciens résistants. de résistants, pardon, pas d'anciens résistants. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on faisait? J'étais un ignorant total en ce qui concerne le maniement des armes. Donc la première chose qu'on nous a appris, c'est manier les armes, c'est-à-dire les monter, les démonter, savoir faire fonctionner les armes que nous avions. Les armes au départ étaient, on avait surtout des mitraillettes, et nous avions dans notre groupe un fusil mitrailleur récupéré de la guerre de 39-45, c'est-à-dire que notre armement n'était pas très 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 important. Puis ensuite il y a eu le parachutage, donc on a eu du matériel moderne, notamment du matériel anglais. Donc première chose, apprentissage du maniement des armes, de l'utilisation des armes, et puis ensuite, eh bien, c'était les coups de main, c'est-à-dire on allait où ceux qui nous commandaient nous demandaient d'aller. En ce qui me concerne, j'ai participé notamment à un combat, enfin une attaque plus exactement, d'un petit convoi allemand à proximité de la croisée de Bagé, entre la croisée de Bagé et Replonge. Au lieu dit Lomus, exactement. Et nous avons à cette occasion-là, les Allemands étaient surpris, bien entendu. D'après les documents officiels, je dois l'avoir ici, tué 7 Allemands et fait 2 prisonniers. Enfin, je vous le redirai tout à l'heure si je retrouve. Voilà, je donne cet exemple-là. Nous organisions aussi, je ne veux pas développer, parce qu'un combat, c'est un combat, ça ne dure pas longtemps, hein, ça dure maximum une dizaine de minutes. Les uns se replient, les autres aussi. Ça n'était pas, je l'ai dit tout à l'heure, une bataille rangée, on ne se battait pas front contre front. Donc ça, c'est un exemple. En ce qui concerne les Allemands et nous, notre groupe a failli aussi se faire prendre par les Allemands, parce que au mois de d'août 1944, lorsque les Allemands repartaient, c'était non pas la débâcle française comme en 1940, mais c'était la débâcle allemande de 1944, lorsque les Allemands repartaient, ils repartaient avec les moyens du bord, c'est-à-dire que bien souvent, ils rentraient à bicyclette, oui, parce que ceux que nous avons fait prisonniers, par exemple, ils étaient à bicyclette, sur la route de Bourg-à-Mâcon. Et un soir, après une journée pluvieuse où nous surveillions les Allemands entre Cormeaux et Varennes-Saint-Sauveur, notre chef de groupe nous dit, allez, on va rentrer, on est trempés comme des rats. Alors on descend sur la route de Varennes-Saint-Sauveur à Cormeaux, et vous savez, quand il pleut et qu'il ne fait pas beau, on baisse plutôt la tête que de lever la tête. Et notre chance, on a eu de la chance ce jour-là. Arrive en face de nous un groupe d'Allemands qui, eux, nous avaient vus, alors que nous ne les voyons pas. Dès qu'on les avait vus, on a eu une chance inouïe. Nous nous trouvions sur un pont avec d'une rivière, et derrière nous, il y avait un bois. Nous avons eu juste le temps de faire demi-tour, parce qu'il n'était pas question de s'amuser à se tirer les uns sur les autres, et de repartir d'où nous venions. Donc là, c'est l'exemple inverse, c'est l'exemple où nous aurions bien pu nous faire descendre par les Allemands. Ça ne s'est pas produit, heureusement. D'autres choses que nous faisions, en dehors de tout, je ne vous cite pas les petites choses dans le détail, notre groupe avait pour mission aussi de ravitailler les maquisards qui se trouvaient au Cré de Chalam, ou dans la région qui était au-dessus des Chalons. Donc j'ai participé 2 fois à cette phase de ravitaillement. Vous allez me dire, mais c'est évident, parce qu'on ne passe pas son temps à tirer sur les Allemands, il faut aussi manger, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient dans les camps, il faut amener du ravitaillement. Où trouvions-nous le ravitaillement? Eh bien, comme nous étions en Bresse, il y avait des groupes qui arrêtaient les péniches à Fleurville. Et ces péniches qui remontaient en direction de l'Allemagne étaient chargées de sucre, de conserves, enfin de toute une série de choses qui n'étaient pas destinées aux Français. Et une chose importante aussi, c'était de récolter de la farine pour que l'on puisse faire du pain. Donc, lorsque nous partions avec des camions chargés de ce matériel de conserve, de sucre, de farine notamment. Et je suis allé comme ça jusqu'au Kret Shalam une première fois, puis une deuxième fois. Nous avions comme matériel des camions qui n'étaient pas performants comme ceux d'aujourd'hui. C'était des camions qui fonctionnaient au gaz au bois ou au gazogène. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous n'avez jamais vu, bien entendu, même pas dans les... Comme il n'y avait pas d'essence, c'était le combustible, c'était le gaz qui provenait de la combustion de ce bois ou de ce charbon de bois. C'était une sorte de grand récipient qui se trouvait, disons, à côté de la cabine et qui alimentait le moteur et qui faisait tourner le moteur des camions. Conclusion de ça, c'est que ce n'était pas rapide. Pour faire, nous partions de Malafrota. Pour faire Malafrota al Kret Shalam, il nous fallait un jour. Oui ? J'en vois qui sourit, mais c'est vrai, parce qu'on tournait à 30 à l'heure, guère plus. D'autre part, il n'y avait plus de pont pour traverser la rivière d'Ain. Il n'y a qu'un endroit où on pouvait traverser la rivière d'Ain, c'était au barrage de Cise. Le barrage de Cise, vous savez, il y a une plateforme qui va de... On pouvait passer sur cette plateforme et reprendre la route qui montait à Oyonnax, Tortan, enfin le Kret Shalam, pour assurer le ravitaillement. Ça vous explique qu'on pouvait mettre une journée à l'époque à cette vitesse-là, avec ces moyens-là, pour aller jusqu'au Kret Shalam. La deuxième fois, c'était les... Nous étions arrivés au dernier jour du mois d'août. Nous sommes arrivés au Kret Shalam. Il n'y avait plus personne. Ça aussi pour vous montrer que la communication ne fonctionnait pas bien à l'époque. Et cette fois-ci, les camions étaient chargés de sucre notamment. Qu'est-ce que nous avons fait? Au retour, nous nous sommes arrêtés à Oyonnax et nous avons descendu tout le sucre et toute la farine qu'il y avait à la coopérative L'Aurore, qui existait à l'époque, et nous sommes repartis à vide. Je vous dis tout de suite que les gens d'Oyonnax étaient très contents d'avoir des sacs de sucre, et afin d'avoir quelque chose qui était un supplément à l'ordinaire. Voilà. Vous voulez encore d'autres choses, sans doute? Oui. Le jour de l'arrivée de l'armée américaine, c'est-à-dire où le nord de la Bresse a été libéré, c'est au lendemain de la bataille de Morvel. Comme j'étais le seul à connaître quelques mots d'anglais, je dis bien quelques mots, hein, parce que je n'en avais fait qu'un an, on faisait de l'allemand à ce moment-là. La langue qui était apprise partout, c'était l'allemand. On m'a chargé d'aller avec une jeep à faire le repérage du parcours futur. C'est-à-dire que je suis parti avec la jeep en direction de la Saône-et-Loire. De Romney, je suis passé par la Chapelle Tecle, Montpont. Et à les Américains étaient mieux renseignés que nous, parce qu'à la Chapelle Tecle, il y avait un avion américain qui avait été abattu par les Allemands la veille ou l'avant-veille. Et il savait exactement où l'avion, disons, était tombé. Donc nous sommes passés et les Américains ont mitrailler tout ce qui existait pour pouvoir, en quelque sorte, neutraliser tous les débris qui étaient là, quoi. Ensuite, retour par Montpont et on revient en Bresse. Voilà, si vous voulez, en ce qui concerne la phase du maquis, c'est la dernière chose que j'ai faite. Non, pas la dernière, parce que j'ai aussi pris un Allemand, pris c'est le cas de dire, quelques jours après, parce que les Allemands, malheureusement, je vous ai dit, ils partaient avec des bicyclettes, ils partaient avec les moyens du bord, c'était plus l'arrivée de 1940. Et on m'avait signalé dans un hameau de Mantenay-Montlin qu'un Allemand, disons, était là. Et bon, je n'ai pas eu de difficulté ni de gloire particulière à l'arrêter et le prendre parce que il n'avait qu'une envie, c'est de s'arrêter. Voilà, c'est, si vous voulez, c'est la dernière chose sur le plan de la lutte armée que j'ai eu à faire, en somme. Mais il faut dire qu'à 17 ans, j'avais à peine 18 ans lorsque j'étais au maquis, je n'étais qu'un petit soldat, je n'étais pas un chef. Hein. Vous comprenez ?
Vous étiez beaucoup de jeunes dans la résistance au maquis ?
À vous dire, vous donner un chiffre exact, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le dire, mais oui, nous étions assez nombreux. Mais ne vous y fiez pas, ne croyez pas que tous les jeunes étaient dans la résistance et au maquis. Je vais vous donner l'exemple de mon village. Mon village avait 500 et quelques habitants à l'époque. Nous n'étions que 3 à être au maquis. 2 jeunes et un adulte, disons, qui avait fait la guerre de 39 et qui était un chef, lui. Donc, vous voyez, on n'était pas très nombreux. Dans le village voisin, à peu près dans tous les villages, c'était comme ça. C'était quelques jeunes qui étaient vraiment allés au maquis et qui pouvaient revendiquer le titre de non seulement de résistant, mais d'ancien maquisard. Donc, n'ayez pas la vision de tout le monde était, disons, ça n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que une partie importante de la population était avec nous, mais elle était neutre. Elle ne bougeait pas. C'était ça l'attitude de la population, mais pas une participation active. Oui ? Comment ?
Vos meilleurs souvenirs pendant ces périodes ?
Ah, les meilleurs souvenirs. Bon, le souvenir peut-être le plus intéressant, c'était pas les batailles qu'on avait menées, bien entendu, parce que ça c'est autre chose. C'était la joie de voir les gens arriver, l'armée américaine, et être libérée. Imaginez 1940-1944 avec la présence de la milice d'un côté, de l'armée allemande ensuite, voir l'armée allemande repartir, la guerre se terminer, pas partout, mais la guerre se terminer au moins sur le territoire où on est, où on vit. Ça, oui, c'était intéressant. C'est un bon souvenir. Bon, il y en avait peut-être d'autres, mais ils ne me reviennent pas comme ça en mémoire.
Je suppose qu'il y a certains moments où vous avez eu peur. Comment est-ce que vous avez pu appréhender un peu?
Ah, ça aussi, c'est une question très intéressante. La peur. Ben, vous savez, la peur, c'est un sentiment humain. C'est un sentiment qui apparaît lorsque le danger est là. Je vais essayer de vous expliquer ce qui, disons, suscitait la peur. En tant que résistant, d'abord, c'était, parce que nous n'étions quand même pas ignorants de tout ce qui se passait, c'était le fait de se dire peut-être que quelqu'un va te dénoncer ou va te dénoncer et tu vas être suivi. Donc, la peur, oui, c'était la peur d'être dénoncé. Parce qu'on savait que si on était dénoncé, on risquait d'être emprisonné avec tout ce que cela pouvait comporter par la suite. Ça, moi, c'est la première peur que j'ai eue. Enfin, c'était une peur diffuse, mais je vais vous raconter une chose. J'avais pris l'habitude à ce moment-là, lorsque je circulais, notamment en ville, de toujours me retourner pour savoir si j'étais suivi. Et ça, c'est une attitude qui m'est restée très longtemps. La peur, oui, parce que lorsque on a les Allemands en face de nous, et qu'on va, disons, être engagé dans un combat, il ne faut pas se faire d'illusions, ils étaient, pour employer un terme d'aujourd'hui, beaucoup plus professionnels que nous. Nous n'étions pas professionnels, nous étions des jeunes, pour certains, comme moi, un peu inexpérimentés. Donc, c'est vrai que lorsque j'ai abordé le premier combat, j'étais comme beaucoup, j'avais la crainte de ce qui allait se passer, parce que je n'en savais rien. Et j'ai constaté une chose absolument extraordinaire, c'est qu'on a peur avant le combat, avant de tirer les coups de fusil, enfin avant de s'engager, et après, moi ça m'est resté constamment, la peur disparaît. Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène, mais à ce moment-là, on a évacué, lorsqu'on est entré dans le combat, la peur. C'est après coup, bien souvent, qu'on se dit, mais on était inconscient ou on n'a peut-être pas fait attention. C'est ce que j'ai ressenti, moi. La peur avant, ça, incontestable. Et ensuite, une sorte de, disons, d'état où l'on n'a plus peur du tout. Où on combat comme, vous savez, il y a l'odeur de la poudre, il y a toute une série de choses qui se passent et qui doivent en quelque sorte nous annihiler un peu notre peur. Il y avait une autre peur qui était la nôtre aussi. C'était la suivante. Nous savions que si l'un d'entre nous, dans un combat ou quoi que ce soit, était blessé et restait, disons, sur le pavé, pris par les Allemands, on savait ce qui nous attendait. Alors, je ne vous parle pas, mais on avait pris une décision en ce qui concerne cette chose possible pour que cela ne nous arrive pas. Celle-ci, c'était une peur véritable aussi, parce qu'on savait que ceux qui étaient pris par les Allemands étaient torturés, et la torture, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à subir, et bon, tout le monde ne résiste pas à la torture. Je pourrais en parler, si vous voulez, parce que j'ai un camarade qui est décédé récemment, qui était aussi un ancien élève du lycée Lalande, qui lui a été torturé. Vous avez encore d'autres questions, je parie.
Oui. Justement, la torture, ils disaient quoi?
Ah, la torture. Je vais regarder si je retrouve le document. Je vais vous lire le. Ça, c'est une lettre que m'a envoyé un ancien élève du lycée Lalande, qui lui a été torturé après avoir été pris par les Allemands. Alors, vous me posez la question, je vais vous lire le passage qui le concerne. Ses camarades viennent de décéder récemment. Voilà. Vous voulez que je vous fasse la lecture ? Celui-ci a été déporté, ce camarade. arrêté le 9 avril à 20h10, jour de Pâques, nous sommes conduits, car nous étions 6, à Mataflon. Vous savez où c'est Mataflon? C'est dans, près d'Oyonnax. Subissant un premier interrogatoire le 10, puis le 11, transféré à Oyonnax, où je suis. Le 11 à 16h10, torturé pendant 2 heures par 7 miliciens, menacé de mort, frappé à coups de poing, à coups de pied, m'évanouissant plusieurs fois sous les coups, noyé momentanément, ramené à la vie à coups de pied sur la tête, puis à coups de poing dans l'estomac. On m'enfonce ensuite un fil de fer dans la gorge. Ce fut terrible. Je fus laissé presque sans connaissance. Mais comme tu dois le penser, pas un seul mot n'est sorti de ma bouche, si ce n'est que des cris de douleur. J'étais décidé à mourir, je m'étais préparé pour cela. Voilà, je vous donne un... Je pense qu'il y a d'autres choses aussi intéressantes. Alors, je vous lis aussi, parce qu'il y a le passage à Montluc. Vous savez, quand... lorsque... La première phase, c'était celle que je vous indique. La deuxième phase, on les emmenait à Montluc. Montluc, prison lyonnaise. Et ensuite, la troisième phase, c'était direction Compiègne. Et ensuite, de Compiègne, c'était l'arrivée au camp de déportation. Alors, je passe les choses sans importance. Le 12, je suis emmené à Montluc, à Lyon, où, après un séjour de 10 jours, qui fut affreux, nous fûmes amenés à Compiègne. À Montluc, nous étions 6 et jusqu'à 8 dans les cellules de 1,85 m par 2,25 m. Rongés par les puces et les poux qui pullulaient, crevant de faim, je vous lis textuellement, tombant souvent de faiblesse, sans eau, sans air. Voilà. Si vous voulez, c'est la meilleure réponse que je puisse faire à ceux qui demandaient qu'est-ce que c'est que la torture. C'est un des aspects. Il y en avait beaucoup d'autres. Hein. Personnellement, j'ai eu de la chance. C'était un très bon camarade. Et par une chance extraordinaire, il avait des documents sur lui qui le concernaient. C'était un Autrichien exactement, qui le surveillait, n'a pas fait attention. Donc je risquais aussi d'être emmené, mais finalement, rien ne s'est passé, j'ai eu une chance extraordinaire. Oui. Parlez plus fort, s'il vous plaît.
Vous avez gardé beaucoup de contacts avec les personnes qui ont fait la résistance avec vous?
Ah oui, on a gardé beaucoup de contacts, évidemment. Mais ce qu'il faut dire, c'est que notre génération maintenant est une génération en voie de disparition, sans jeu de mots, bien entendu. Vous comprenez qu'avec... j'étais l'un des plus jeunes, je dois peut-être même être le plus jeune des anciens du lycée Lalande qui était au maquis. Et j'ai un certain âge déjà. Donc, tous ceux qui étaient les chefs de la résistance sont tous, vous le savez, disparus depuis longtemps, les chefs les plus importants, vraiment les têtes. Tous ceux que j'ai eus comme, disons, comme petits chefs, comme responsables de groupe, sont morts aussi. Nous ne restons plus que quelques-uns, mais nous avons toujours, toujours conservé des attaches entre nous. Et ce que l'on s'efforce de faire maintenant, c'est de conserver la mémoire de cette période-là, parce que c'est ce qui nous reste à faire.
Est-ce que vous avez pensé un jour à abandonner la résistance?
Non, jamais. Non, non. Ça, je peux vous... non. Mais effectivement, c'est une chose qui s'est passée. Il y en a qui ne sont pas repartis au maquis. Il y en a qui ont fait peut-être 8-10 jours de maquis, qui se sont trouvés, disons, dans des circonstances qui ont fait comme je l'ai indiqué quand on nous séparait en petits groupes, et qui ne sont pas repartis ensuite. Donc le tri s'est fait à ce moment-là. Oui.
Est-ce qu'il y a des actions pendant que vous étiez résistant que vous regrettez maintenant?
C'est un peu la question que m'avait posée mon petit-fils. J'ai un petit-fils qui s'intéressait beaucoup à la résistance. Et la question qu'il me posait toujours, est-ce que tu as tué des Allemands? C'était son obsession. Je ne pouvais que lui répondre que j'ai tiré sur les Allemands. J'ai participé à un petit combat où 7 sont morts. Je ne peux pas dire que je suis le responsable ni quoi que ce soit. Maintenant, c'est une question, je dirais même philosophique en définitive. C'est vrai qu'on peut se poser cette question-là, quelle est l'utilité de tuer quelqu'un? Ne serait-ce pas mieux de vivre en paix et en bonne intelligence? À ce moment-là, la question ne se posait pas, parce que vous savez, quand on est dans un combat, c'est ou toi ou moi. C'est le premier qui tire qui s'en... Malheureusement, c'est la logique, la logique absurde des combats. Maintenant, regretter, c'est difficile de regretter, puisque quand on participe, si vous voulez, à quelque chose, on avait comme objectif de libérer la France, libérer avec notre petite participation, de retrouver la paix, la tranquillité, c'était ça l'essentiel. Donc les regrets, on peut toujours regretter, mais malheureusement on ne refait pas le chemin qu'on a fait. Oui.
Est-ce que vous écriviez à votre famille pour donner des nouvelles et dire ce qui se passait?
Pendant cette période-là?
Ouais.
Ah, pendant la période de la résistance, mes parents ignoraient totalement que j'étais, disons, dans la résistance. Ça, c'est vrai. Ils ne le savaient pas parce que je ne leur avais pas dit, pour des raisons de sécurité, parce que c'est vite fait de laisser échapper des indications. Je leur ai peut-être, je ne me souviens pas très bien, donné quelques journaux de la résistance, mais c'est tout, sans qu'ils sachent que j'étais dans la résistance. Autrement, lorsque il a fallu partir au maquis, on est venu me chercher, bien entendu, et là, mes parents ont découvert que j'étais dans la résistance, puisqu'ils l'ignoraient totalement. Quelle fut la réaction de mes parents? Je revois encore la scène. Bon, ben, mon père, je pense qu'il devait être relativement content que j'ai pris position. Je ne vais pas dire qu'il manifestait sa satisfaction, mais c'était dans la continuité de, si vous voulez, du combat de ceux de 14-18. Ma mère, eh bien, a dû sans doute être très surprise, mais elle n'a rien manifesté de particulier, même si, en son fort intérieur, elle devait se dire, c'est quand même étrange de le voir partir maintenant au maquis. Oui.
Est-ce que vous teniez un journal de bord?
Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi je ne tenais pas de journal de bord, d'écrit, ni quoi que ce soit? Parce que je n'avais rien d'abord, ni crayon, les stylos n'existaient pas, les stylos à billes, c'était inexistant à l'époque. Et il y avait un danger à tenir un journal de bord, c'est de l'avoir sur soi et de se faire prendre. C'est-à-dire qu'il contenait forcément des renseignements qui auraient été utilisés après. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais rien noté, à quelques moments que ce soit. Je regrette peut-être maintenant, après coup, mais que faire? C'était pas possible de le faire, et je ne voulais pas le faire pour, disons, ne pas mettre en difficulté les camarades qui étaient avec moi, et ma famille non plus. Oui.
Et si là, vous aviez la force physique de recommencer, vous recommenceriez le maquis et tout ça?
Je m'excuse, mais parlez plus fort.
Si vous aviez la force physique de recommencer, s'il y avait une autre guerre, vous recommenceriez le maquis?
La force physique de participer ou de... Ah, de toute façon, je lutterai toujours... je résisterai toujours, si vous voulez. Ça, c'est ancré en moi, comme d'ailleurs la plupart des anciens résistants. Hein, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas des propositions, des termes, des situations qui nous conduisent, qui nous conduiraient plutôt dans l'impasse. Ça, de ce côté-là, si vous voulez avoir mon opinion personnelle, je ne pourrais pas, si vous voulez, physiquement refaire ce que j'ai fait, parce que ça ne m'est pas possible, mais en ce qui concerne le fait de résister, oui, je le referai. Vous parliez tout à l'heure du maréchal Pétain, du chef de l'État. Voilà le... Voilà ce qu'on nous faisait apprendre lorsque nous étions au collège, à l'EPS. Maréchal, nous voilà. C'était le champ de marche de l'époque. Naturellement, vous ne le connaissez pas, mais c'était ce qu'on nous faisait apprendre. Vous voyez, c'était tout était fait à la gloire du chef de l'État. Hein. Je vous ai apporté aussi une reproduction d'un acte qui a été qui s'est passé le 11 novembre 1943. Vous connaissez la place de la Vizirette, là? À l'époque, enfin, avant-guerre, ici, il y avait la statue de Quinet. C'était la place Edgar Quinet. Comme il y avait dans la cour de la préfecture, la statue du général Joubert. Et comme il fallait des matériaux pour pouvoir fondre de nouveaux canons, tous ces monuments qui n'étaient pas en pierre mais en bronze ont été enlevés par les Allemands et amenés aux fonderies. Et le 11 novembre 1943, les résistants de Bourg ont remplacé la statue d'Edgar Quinet, qui avait disparu, par ceci. Enfin, disons, il y avait le drapeau avec la croix de Lorraine, vive la quatrième, et... La quatrième, il s'agissait de la quatrième république, puisqu'avant-guerre, c'était la troisième république. Vous voyez, c'était des actes comme ça qui permettaient à ce moment-là de mobiliser un peu la population, de réveiller les esprits qui étaient endormis. Voilà, il y avait le bus de la République qui avait été installé ici. Bien entendu, je vous fais pas de dessin, mais ça a disparu extrêmement rapidement. Mais on a quand même eu le temps de le photographier. Voilà par exemple un acte de courage, parce qu'il fallait le faire quand même à l'époque. Hein. On risquait l'arrestation, on risquait des tas de choses, la dénonciation ou quoi que ce soit. Donc c'était important. Oui.
La statue, les Allemands, ils ne l'ont pas détruite.
La statue.
La statue que j'ai.
Ça, ah ben, je ne peux pas vous dire ce que c'est devenu, mais j'imagine que ça a été emmené et détruit immédiatement. Hein. Parce que ça, c'était vraisemblablement du plâtre. Hein. C'était pas autre chose. C'était plus facile à transporter. C'était pas du métal ni de la pierre. Comment ?
La photo que vous nous montrez date de quand exactement ?
La reproduction, vous voulez dire ? Non, normalement, la photo a dû être prise le 11 novembre 1943. Oui ?
Est-ce que quand vous étiez au lycée Lalande, le directeur il faisait partie de la résistance ?
Ah non, non, pas du tout. Non, au lycée Lalande, moi je n'ai pas eu affaire, disons. C'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Il y avait un professeur, nous connaissions un professeur qui lui avait des idées pro-allemandes. Et c'était pas, je ne pense pas que ce fût un milicien ni quoi que ce soit, mais enfin, il avait, si vous voulez, des sympathies pro-allemandes. Et autrement, en ce qui me concerne, et en ce qui me concerne, moi j'arrivais en 1943, donc je n'ai pas connu ce qui s'est passé avant. Avant, il y a eu des problèmes, je sais, mais en ce qui nous concerne, nous n'avons pas eu de problème particulier. Mais il ne faut pas croire que la sympathie était générale. Il y avait vraisemblablement des gens qui étaient proches de la milice, sinon, disons, appartenant à la milice, et qui était à l'intérieur du lycée, quoi. C'est pour ça qu'il fallait être absolument, se taire et ne pas trop parler. Je vous ai apporté aussi une photocopie, un exemplaire d'un journal tel qu'il était fait dans la Résistance. C'est pas un original, hein, c'est une copie que vous pouvez vous faire passer, comme ça vous aurez une idée.
Est-ce que vous pouvez revenir sur le deuxième terme que vous avez prononcé, qui était celui d'armée secrète ?
Ah. L'armée secrète, c'était... si vous voulez, dans la France résistante, Bourque a joué un rôle, si vous voulez, à Bourque, un personnage a joué un rôle extrêmement important, c'est le général Delestrin. Donc, je pense que vous en avez entendu parler. Le général Delestrin n'était pas un Bressan, il était originaire, si mes souvenirs sont exacts, du nord de la France, et il s'était installé à Bourg-en-Bresse. Et c'est lui qui devint le chef militaire de l'armée secrète, c'est-à-dire, c'était vraiment c'était, si vous voulez, par rapport à la partie civile ou diplomatique ou organisationnelle, le général Delestrin, lui, il était, si vous voulez, le chef de la partie militaire de la résistance. Et ceci dès 1944, si mes souvenirs sont exacts, je crois. Comment ?
Il était à Londres,
comme de Gaulle ? Ah non. Il était à Bourque. Il résidait à Bourque à ce moment-là. Et il allait souvent à Lyon parce qu'il était en contact avec le responsable de la résistance, c'est-à-dire Jean Moulin. Jean Moulin, si vous voulez, c'était la tête, je dirais, organisationnelle de la résistance. Tandis que, avec l'accord du général de Gaulle, le général Delestrin, c'était le chef de l'armée secrète, c'est-à-dire de la partie militaire, c'était un militaire, c'était la partie militaire de la résistance. Et il a été, lors d'un séjour à Paris, il a été pris, il a été amené en déportation, et il a été vraisemblablement tué avant la libération. La libération des camps, je m'en. À Bourg, il y avait aussi un personnage qui a été un personnage important, c'est le colonel Gassaldo, qui était en quelque sorte l'adjoint du général Delestrin pour toute la partie militaire. Ces deux personnages-là sont des personnages qui ont vécu à Bourg et qui ont joué un rôle très important. Lui aussi fut déporté et il revint de déportation. En ce qui concerne le général Delestrin, je dois préciser une chose, c'est que l'un des anciens élèves du lycée Lalande fut le secrétaire du général Delestrin. C'est notre ami François-Yves Guillain, qui est d'ailleurs toujours vivant, qui lui fut le secrétaire du général Delestrin. Donc vous voyez, il y a quand même des... Il était plus âgé, bien entendu. Il faisait ses études de médecine, et à ce moment-là, le général Delestrin lui avait confié, son secrétariat. Si vous voulez avoir des renseignements en ce qui concerne le général Delestrin, François Guillain a écrit un livre, c'est-à-dire une thèse, concernant le général Delestrin. C'est-à-dire que vous pouvez, si ça vous intéresse, retrouver, ça doit exister à la bibliothèque ici, vraisemblablement, sinon François Guillain doit en avoir encore des livres. Vous pouvez retrouver ce livre et avoir vraiment l'historique de ce que fut le général Delestrin, de son action avant la guerre, au début, parce que dès 1940, il ne faut pas oublier que dès 1940, ils commencèrent déjà à mettre en route l'idée de résister. Alors que... Ah oui. Alors qu'en... Oui, je reviens en disant que dès 1940, ils avaient déjà émis l'idée de résister. Vous allez me dire, mais c'était le début de la résistance. Oui, pour ces gens-là. Mais à ce moment-là, la France était, péténiste en 1940. Il ne faut pas croire que c'était vraiment que quelques unités, quelques personnages. Pourquoi la France était-elle péténiste ? Parce que les forces vives de la nation, c'était ceux qui avaient participé à la guerre de 1914-1918 et qui vivaient à ce moment-là. Donc pour eux, je dis bien pour eux, le maréchal Pétain était resté un symbole, le symbole du militaire qui avait gagné la bataille de Verdun. C'était important parce qu'il vivait sur cette idée-là. Et à ce moment-là, De Gaulle, en Angleterre, était très très peu connu, alors que Pétain était très bien connu. Vous voyez la différence. Les choses changeront ensuite au fur et à mesure que les années passeront pour arriver à l'inverse, c'est-à-dire que Pétain, son aura disparaîtra et que De Gaulle apparaîtra. Mais ça, c'est un cheminement qui a duré 4 ans. Oui.
Vous connaissiez des filles qui étaient résistantes ?
Je ne vous ai pas entendu.
Vous connaissiez des filles qui étaient résistantes ? Est-ce que vous connaissiez des filles qui étaient résistantes ?
J'ai pas. J'ai toujours pas compris la question.
Est-ce que vous connaissiez des filles dans la résistance?
Non. Non. Comment?
Ni dans le secrétariat ou dans la rédaction des tracts?
Ah oui, oui, bien sûr. Il y a eu des... Mais ça, si vous voulez, dans ces rédactions-là, dans ce travail-là, j'évoquerai le travail des femmes dans la résistance. Oui, les femmes ont participé à la résistance. Et notamment, d'une façon particulière, c'est que lorsqu'il fallait transmettre des messages, je vous ai dit qu'à l'époque, ce n'était pas du tout comme aujourd'hui, il faut évacuer ce qu'on connaît aujourd'hui pour se dire que la façon de transmettre des messages, c'était d'utiliser quelqu'un qui portait un message d'un responsable à un autre responsable ou d'un secteur à un autre. Et c'était les jeunes filles de l'époque qui étaient, les femmes, qui étaient très souvent, pour ne pas dire tout le temps, chargées de ces messages. C'était un rôle particulier quand il y avait quelque chose à taper, un tract ou quoi que ce soit, c'était vraisemblablement des secrétaires qui le faisaient. Dans notre camp, nous avions une femme comme ça qui était agent de liaison, ce qu'on appelait les agents de liaison. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, il y avait le couvre-feu. C'est-à-dire que on avait le droit de. Moi, j'étais interne, je n'ai pas connu ça, mais c'est-à-dire qu'il y avait une période où il était très difficile de circuler. Il était préférable de rester chez soi que de circuler. Parce que les patrouilles circulaient en ville, et puis la milice circulait, la police circulait. Donc, on était sujet à se faire arrêter et avoir des ennuis.
Et est-ce que la mairie de Bourg a été prise par les Allemands?
À l'époque, c'était il y avait des délégations, donc la mairie de Bourg. Les Allemands n'étaient pas installés à la mairie de Bourg. Ils étaient installés dans des hôtels, dans des casernes. Et c'était leur... Mais la mairie en particulier, je n'ai pas de souvenir de quoi que ce soit. Puis comme je n'étais pas originaire de Bourg, c'est une chose que je n'ai pas connue. Mais enfin, non, ils n'ont pas pris la mairie de Bourg en tant que telle. Il y a une chose aussi que dont je ne vous ai pas parlé, mais en évoquant la vie à cette époque-là, il faut que vous sachiez qu'il n'y avait pas de supermarché comme aujourd'hui, ni l'abondance dans les magasins. Tout était contingenté. Le pain, la viande, l'huile, le sucre, le café. Donc il n'y avait pas d'abondance, il y avait ce qu'on appelait des tickets. Voilà l'exemple de tickets, c'est des petites feuilles comme ça, et qui donnaient droit à tant de grammes de pain, même le tabac était contingenté, tout était contingenté. Si vous voulez, je vous fais circuler ça, vous aurez une idée de ce que c'était que les tickets à l'époque. C'était ce que chaque famille possédait, pour pouvoir, aller chercher à l'épicerie, à la boucherie ou à la boulangerie, ce qui était indispensable. Mais vous allez me dire, comment vivait-on alors? Mais l'avantage à cette époque-là, c'est que le département de l'Ain était un département majoritairement agricole, contrairement à aujourd'hui. La population rurale était très importante. il y avait beaucoup de petites fermes, donc les gens allaient s'approvisionner dans les petites fermes pour acquérir ce qu'ils ne pouvaient pas acquérir autrement, c'est-à-dire des œufs, du beurre, quelquefois du lait, enfin toute une série de choses, de la viande aussi. Et cela a engendré quelquefois ce qu'on a appelé le marché noir, c'est-à-dire un autre aspect des choses. Ceux qui profitaient de, disons, cette situation, c'est ce qu'on appelait des gens qui faisaient le marché noir, c'est-à-dire qu'ils faisaient des profits en profitant de la raréfaction des produits qui étaient rares, en allant, disons, voir les... en vendant, si vous voulez, des produits à tous ceux qui venaient avec une plus-value qui leur permettait de faire beaucoup d'argent. Ne croyez pas que tout le monde faisait du marché noir, c'est pas vrai. Mais il y en avait quelques-uns qui le faisaient. Oui.
Les soldats allemands en venant, est-ce qu'il y en a qui venaient leur famille ou qui habitaient en France ?
Comment ?
Les soldats allemands, est-ce qu'il y en a qui venaient leur famille ?
Je n'ai pas connu d'Allemands qui avaient leur famille en France. C'est possible, mais honnêtement, je n'en ai pas connu. Par contre, j'ai connu, comme je faisais de l'allemand, j'ai eu l'occasion de discuter avec des Allemands qui étaient dans un camp proche de chez moi. C'était souvent des soldats âgés qui provenaient de Tchécoslovaquie, qui provenaient d'Autriche, plutôt que des soldats allemands eux-mêmes. Ils étaient embauchés, enfin, ils avaient été, les pays avaient été envahis et on les avait englobés dans l'armée allemande. Pour ces tâches-là, pour des tâches de surveillance et autres. Vous posez sans doute la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait une fois que la résistance a été terminée aussi. Oui ? Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Lorsque la libération est arrivée, les maquis ont quitté leur base et nous sommes redescendus, si vous voulez, dans les villages, dans les villes. Il n'y avait donc plus de clandestinité. On était au grand jour. En ce qui concerne le camp dans lequel j'étais, les groupes dans lesquels j'étais, nous sommes restés environ 3 semaines jusqu'à la fin du mois de septembre avec nos armes. On faisait ce qu'on appelait, entre guillemets, c'était ce qu'on appelait de la surveillance, des contrôles, des... On ne se substituait pas à la gendarmerie, mais on avait gardé nos armes pendant cette période-là. Au bout de 3 semaines, à peu près, je vous donne mon exemple personnel. En ce qui me concerne, le lieutenant qui dirigeait le camp nous a tous rassemblés auprès du camp en nous posant la question suivante. Maintenant, c'est terminé pour ce qui concerne le maquis. Vous avez 2 solutions. Ceux qui veulent rentrer chez eux se mettent d'un côté et ceux qui veulent continuer dans l'armée française se mettent de l'autre. C'est-à-dire que nous avions le choix entre 2 choses, soit rentrer dans nos foyers, soit continuer dans l'armée. En ce qui me concerne, je n'avais pas le choix puisque j'allais au mois d'octobre entrer en première. Donc moi, j'ai quitté carrément à ce moment-là. Si vous voulez, ma situation c'est très simple. J'ai quitté le maquis, j'ai rendu les armes et je suis revenu au lycée Lalande au mois d'octobre 1944. Ce qui m'a d'ailleurs... Là, il y a eu une petite scène intime très intéressante. C'est que notre professeur de français de seconde a réuni tous ceux qui étaient dans mon cours pour dans la cour intérieure là, pour nous dire sa fierté et sa reconnaissance envers ceux d'entre nous qui avaient participé à la résistance et pris le maquis pris les armes pendant cette période-là. C'était une toute petite chose, mais une chose que j'ai toujours gardé et conservé en ma mémoire. La deuxième partie, vous allez me dire, ceux qui sont partis dans l'armée. Il y avait toute une série d'anciens maquisards qui sont partis. Ils sont partis, ils ont reformé le 99e régiment d'infanterie qui est allé se battre dans les Alpes contre l'armée italienne. Parce qu'à cette époque-là, les Italiens étaient dans les Alpes encore et l'armée française les a repoussés en Italie à ce moment-là. Voilà ce qui voulait, ce qui est arrivé. En ce qui me concerne, retour au lycée. Et en ce qui concerne les autres, c'était à l'armée.
Après la guerre, il n'y avait pas beaucoup moins de personnes qui faisaient la
guerre. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Enfin, si j'ai bien compris votre question, je ne saurais pas vous dire pourquoi, avant-guerre, beaucoup d'entre nous étudiaient l'allemand, mais c'était classique, on étudiait l'allemand. On étudiait l'anglais aussi. Mais c'était l'allemand qui était la langue la plus étudiée. L'anglais, bien c'est venu progressivement après la guerre. L'anglais a supplanté maintenant très très nettement l'allemand, puisque j'en appelle à votre professeur qui sait très bien que maintenant c'est l'anglais qui est la langue dominante. En ce qui me concerne, moi, au collège, j'avais étudié l'allemand, puisqu'on avait en plus un directeur qui était professeur d'allemand, commandant de la place d'armes de Châlons, donc vous voyez à peu près, je connaissais le régime militaire. Et j'ai pu étudier l'anglais pendant un an à l'EPS, à l'école primaire supérieure, mais ensuite, on ne faisait qu'une langue, donc j'ai continué l'allemand. Ça m'a rendu service, d'ailleurs, pour la période de paix. Ça, c'est peut-être un autre volet de la chose, mais notre commune est jumelée avec une commune allemande. Donc le fait de connaître un peu la langue allemande est intéressant pour nouer les contacts. Ça, c'est un aspect différent, mais c'est, si vous voulez, c'est l'autre aspect de la société. J'ai connu, si vous voulez, la guerre, et maintenant je connais la paix et la fraternité entre les Allemands et les Français. Oui ?
Vous étiez au courant de l'existence des camps d'extermination ?
Ah, ça c'est une bonne question. Les camps d'extermination. Eh bien, je dois vous avouer que nous savions que les camps existaient, bien entendu, puisqu'on savait que des gens étaient déportés, qu'ils partaient. Par contre, ce qu'on ignorait absolument, enfin en ce qui me concerne, et beaucoup d'autres pourront vous donner la même réponse, vous faire la même réponse, c'est que nous ignorions véritablement l'importance de ce qui se passait à l'intérieur des camps de déportation. Ça, je dois vous avouer honnêtement que nous n'en avons eu connaissance qu'une fois la guerre terminée, c'est-à-dire après le mois de mai 1945. La seule chose que nous savions, c'est qu'ils existaient, mais la réalité des camps de déportation, nous ne les connaissions pas. Il n'y avait aucune photo, il n'y avait aucune information, rien ne filtrait à ce moment-là. Je pourrais vous lire, oui.
Je sais que vous étiez jeune, mais est-ce que vous sentiez ou vos parents sentaient qu'il y allait y avoir une guerre juste avant des...
Oui, on le pressentait. Pas moi, en ce qui me concerne, je n'étais que l'écho de ce que j'entendais, mais oui, parce que en 1938, d'abord Hitler a réoccupé la Ruhr, qui était occupée après la guerre de 1914-1918. Envahi l'Autriche et annexé l'Autriche en 1938. En 1939, c'était la Tchécoslovaquie. Et au 1er septembre 1939, c'était l'attaque de la Pologne. Donc on savait, il y avait tout, constamment des problèmes de rappel de militaires pour faire des périodes, comme on disait. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans le civil étaient rappelés pour pouvoir, tant soit peu, se remettre dans la course, si vous voulez. Donc on se doutait bien que quelque chose allait arriver. Mais la réalité de la guerre, bon ben on peut pas l'inventer, ça s'est produit comme ça. Mais c'est vrai qu'on avait, disons, on pressentait quelque chose.
Que sont devenus les collaborateurs après la guerre ?
Ah, les collaborateurs ont normalement, enfin je dis bien, été emprisonnés. Tous ceux qui étaient reconnus ont été emprisonnés. Certains ont été jugés, ont écopé de peines. J'en ai connu qui avaient surtout, disons, été des trafiquants, des collaborateurs pour trafiquer, qui ont été emprisonnés, mais qui n'ont pas eu de lourdes peines. Il y a eu aussi un épisode que vous avez dû voir à la télévision, dans les villes, je ne parle pas les campagnes, mais dans les villes, à Bourg, je ne sais pas, j'étais pas ici, les jeunes filles qui avaient, disons, eu des attitudes complaisantes avec les Allemands pendant l'occupation, notoirement, disons, avec les Allemands pendant l'occupation, avaient été, disons, tondues. C'est-à-dire qu'on les mettait sur la place publique et on les rasait complètement, on enlevait complètement les cheveux. Vous avez dû voir d'ailleurs, il y a eu plusieurs fois des émissions à la télévision qui l'ont montré. Personnellement, je n'ai jamais assisté à ce genre de choses. Je trouvais que ça n'avait absolument aucun rapport avec l'importance. On lui a donné beaucoup plus d'importance que ça n'en avait.
Oui. Qu'est-ce qui poussait les collaborateurs à collaborer avec les Allemands et pas à servir leur pays ?
Eh bien, généralement, ceux que j'ai connus, c'était des gens qui étaient, disons, ce qu'on appelait à l'époque les croix de feu, c'est-à-dire les extrémistes de droite, si vous voulez. Les extrémistes de droite. Et eux, trouvaient, si vous voulez, dans leur façon de penser et de concevoir la société, une opportunité de se mettre en place. Parce que l'État français, c'était non seulement le maréchal Pétain, mais c'était aussi Laval, c'était toute une série de mesures qui ont été des mesures qui étaient de caractère fasciste. Parce que les premières mesures contre les Juifs, ce n'est pas les Allemands qui les ont ordonnées, c'est l'État français, c'est-à-dire Pétain, qui au mois d'octobre 1940 avait déjà, si vous voulez, codifié la lutte contre les Juifs. Donc, les collaborateurs, si vous voulez, ils avaient trouvé leur terrain dans la situation qui était celle de l'État français et celle du régime de Vichy. Oui. Ils ne savaient pas, ils ignoraient où j'étais. Si j'avais un camarade dont les parents étaient postiers à Polia, un camarade de promotion, qui lui était au maquis, que j'avais rencontré au maquis, et sa mère, qui était profondément inquiète, était venue voir mes parents pour le retrouver. Donc mes parents connaissaient des gens qui étaient, disons, des responsables du coin, du village, qui étaient responsables et qui ont pu nous retrouver comme ça. Mais c'est la seule fois où ça s'est produit. C'était par obligation, en quelque sorte. Mais il ne savait pas exactement où on était. D'ailleurs, ce camarade, malheureusement, a été tué à la veille de la libération, à côté de Varennes-Saint-Sauveur, en Saône-et-Loire. C'est l'un des lycéens qui a été tué, enfin, l'un de ceux qui a été tué pendant la dernière guerre, en tant que résistant, lui, et ancien maquisard. Je pourrais aussi vous... Oui.
Est-ce que vous avez connu des parents qui collaboraient avec les Allemands et leurs enfants qui faisaient la résistance?
Ça existait. Je vous ai cité, par exemple, je vous ai cité le cas d'un professeur du lycée Lalande qui était pro-allemand. Eh bien, sa fille était dans la résistance. Alors, vous voyez, le cas a existé, mais... je pense qu'il ne devait pas le savoir, mais ça existait. Il y a eu les cas où l'un était pro-allemand et l'autre était résistant. Si vous voulez, je vais vous donner, j'ai ici la liste de ceux qui étaient responsables des murs, c'est-à-dire des mouvements unis de la résistance. Vous savez, les organisations se sont rassemblées pour ne former qu'un seul ensemble. J'ai la liste de ceux qui sont à Bourg-en-Bresse et dans le département qui étaient responsables de ces murs. Si les noms vous intéressent, je vous les donne. Ou comment? Le René Greuzard, qui était le président des murs, faisait partie du mouvement Libération. Bob Fournier, André Fournier, dit Bob, lui était son adjoint. Il faisait partie de Combat. Henri Germain, qui était le secrétaire, faisait partie de Franc-Tireur. Raymond Charvet faisait partie de Combat. D'ailleurs, entre parenthèses, c'était mon dentiste. Mais quand j'allais chez le dentiste, j'ignorais totalement que c'était un responsable de la résistance. Je l'ai su qu'après. Henri Grosbose, c'était Libération. Eugène Vérel, c'était lui un homme des postes, de la poste, c'était lui qui était chargé d'infiltrer tous les services publics de l'époque. D'ailleurs, il a vécu très âgé, il n'est décédé qu'il y a 2 ans. Pierrette Brochet, c'était une ancienne institutrice qui, elle, s'est occupée de tous les problèmes sociaux. Vous voyez, il y avait donc y compris des femmes qui étaient à la direction. Jean Grivet, c'était le groupe Front. Débat, Combat. Jean Blandon, l'Action ouvrière. Et il y avait encore ensuite André Fournier, Jean Perret, Marcel Gagneux, qui était aussi un instituteur. Parmi les figures importantes de la résistance, il y en a une que vous devez au moins connaître de nom, c'est Paul Pioda, dont une rue porte son nom. Et le magasin se trouvait justement là, au-dessous de la Visirette. C'était un magasin de miroiterie, encadrage, etc. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai bien connu par contre sa sœur qui avait participé aussi activement à la résistance et qui a participé a organisé l'un des premiers parachutages qui a eu lieu dans ma commune de Tossia en 1942. Personnellement, je n'ai pas connu Paul Pioda, j'ai connu sa sœur, mais lui était déjà... Il avait déjà été pris et emmené à S. Je crois que Paul Morin, justement, qui est aussi un ancien résistant de l'ici la langue, devait se trouver avec lui. Mais comme j'étais plus jeune encore, je n'ai connu ça que, si vous voulez, après coup, quoi. J'ai aussi apporté ici si ça peut vous intéresser, les pièces de monnaie que nous avions pendant l'occupation. Ah, vous verrez, ça ne pèse pas lourd. Hein. Ce n'est pas des écus, ni des euros. Ce sont des pièces, je dirais en fer blanc, mais presque. Vous verrez comment elles étaient fichues. Il y avait la Francisque, emblème du pétinisme. Il y avait la devise. La devise, c'était travail, famille, patrie, mais pas liberté, égalité, fraternité. Je vous ai aussi apporté, pour vous montrer la misère dans laquelle on se trouvait à l'époque, le progrès du 8 mai 1945, c'est-à-dire du jour où la guerre s'est terminée. Vous voyez, ça n'avait rien à voir avec les journaux d'aujourd'hui, hein, c'était une feuille, c'est tout. Vous voyez, vous avez le titre, vous avez l'indication. Avez-vous des questions encore à poser? Oui.
Vous pensez écrire un livre sur votre histoire, sur ce que vous avez fait pour vos enfants?
Oui, j'ai écrit, disons, un petit résumé de ce que j'ai fait pendant la résistance. Oui, c'était clair. D'ailleurs, tous les anciens résistants du lycée Allende l'ont fait. Vous pouvez le trouver si vous avez internet sur le site du lycée Allende.
Il existe un site qui s'appelle Résistance Allende. Vous avez un lien, quand vous allez sur le site du lycée Lalande, vous avez le lien directement. Et effectivement, tous les anciens résistants l'ont fait. Et ils avaient sorti il y a quelques années un petit livre, enfin, un livre même relativement important, qui s'appelait Résister, ils ont dit non. Donc en gros, là, le livre que vous prêtez, on en a quelques exemplaires dans la votre histoire du catholique. Et qui est un livre où effectivement on a recueilli. Oui, effectivement, on a recueilli des témoignages de ces anciens résistants qui ont accompli à divers moments et avec diverses, je dirais, motivations, effectivement, une action importante dans la résistance et dans la résistance locale.
Oui, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que c'était ce qui se passait, c'est ce qu'on a fait lorsque j'étais au lycée Lalande, lorsque je me suis retrouvé en dehors du lycée Lalande. Puisque, de toute façon, c'était dans le département, même très localisé. Moi, je me suis trouvé au nord du département. C'est-à-dire qu'on pourrait dire beaucoup de choses, mais je pensais que vous me poseriez encore plus de questions. Et merci. Comment ?
Vous faisiez partie de quel groupe, vous ?
Moi, je faisais partie de... J'étais dans le secteur C7. J'étais à l'AS. Normalement, j'aurais dû être au FUJ.
Oui,
mais
c'est ça.
Pour les raisons que je vous ai expliquées, je ne me suis jamais retrouvé avec les FUJ. Et je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup qui sont trouvés dans mon cas. Qui sont retrouvés au maquis, enfin, au maquis véritablement, dans une autre organisation
que celle
du départ dans la résistance. Ceci uniquement du fait que c'était très difficile de communiquer.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de juifs dans la région, dans le département?
Oui, il y en a eu. Beaucoup, je ne peux pas vous donner le chiffre parce que c'est difficile. Mais ici, on vous donne, je ne sais plus, j'avais une indication,
en ce qui concerne les juifs. Enfin, peu importe. Moi, je sais que j'en ai eu un, comme j'avais un compagnon qui était juif, qui était un juif français, qui était d'origine juive, qui était capitaine dans l'armée française. Donc, il s'est trouvé, je me suis trouvé avec lui. Disons que nous avons bien sympathisé parce que il était d'un niveau autre que la plupart de ceux qui étaient avec moi. Et comme j'étais lycéen, il se sentait plus en phase pour discuter avec moi qu'avec avec d'autres. Mais lorsque nous nous sommes séparés, il n'est pas revenu dans la résistance. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il n'a absolument pas été inquiété. Il vivait, disons, au milieu de la population de Saint-Dizier de Bouchou, pour dire exactement le lieu en question, et jamais il n'a eu d'ennui. Moi, personnellement, je n'ai pas connu, si vous voulez, de Français d'origine juive, si vous voulez, qui aient eu des ennuis. J'en ai trouvé, dont celui dont je vous parle, qui a participé à la résistance, mais c'est tout.
Il y a un certain nombre de jeunes juifs aussi qui ont été accueillis au lycée Lalande.
Oui.
Justement,
oui.
C'est raconté dans l'ouvrage auquel oui. Je faisais allusion.
Il y avait notamment les frères Kaplan, dont le père a été par la suite grand rabbin. Je ne connais pas bien, l'organisation de juive, et récemment j'ai été invité à Lyon parce qu'une place a été donnée au nom de ces frères Kaplan qui sont des anciens élèves du lycée Lalande. Il y a une place qui porte le nom du père de ces anciens élèves du lycée Lalande d'origine juive, et même un timbre-poste a été mis à son effigie. Donc vous voyez, il y a eu par contre d'autres gens d'origine juive qui ont été exécutés, notamment à Bourg. Ça, c'était au mois de juillet, je crois au mois de juillet 44. Il y en a plusieurs qui ont été emmenés et fusillés à la forêt de Saillon. C'est un épisode tragique, mais qu'on n'a pas toujours vécu de la même façon qu'en ville, ou à Paris par exemple, ou même à Lyon, parce que dans nos campagnes, il y avait, à ma connaissance, relativement peu de gens d'origine juive que j'ai connus. Avez-vous encore des questions? Pendant que je suis là, je peux répondre, dans la mesure de mon possible, à toutes les questions que vous poserez. Étant donné que, je m'excuse, mais étant donné que j'étais très jeune, j'ai expliqué au départ que je n'ai jamais été un chef de la résistance, mais un simple soldat. Donc l'essentiel, c'était de participer.
Bien. Alors il nous reste à remercier effectivement M. Parizet d'être venu vous apporter ce témoignage qui, j'espère, vous éclairera. Et je vous dis, moi, cet après-midi, rendez-vous au foyer Caire.
Bon, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a la résistance.